Ce soir, sur Campus Grenoble.
90.8.
Nous ferons ce qui est interdit.
Nous irons ensemble à la buvette.
C'est l'apéro.
Phonie.
L'exception radiophonique.
L'apérophonie.
De la culture.
Et de la musique.
Au shaker et à la cuillère.
Campus Grenoble 90.8.
Bonsoir, bienvenue sur Campus Grenoble 90.8. Je m'appelle Samuel et mon truc à moi, c'est de faire des entretiens de cinéma notamment, mais aussi d'autres choses. Et donc ce soir, on va parler d'un nouveau film avec un invité qui est venu m'en parler, un invité qui a envie de parler de ce film-là parce qu'il était très important pour lui. Et on va essayer de découvrir ça ce soir. Alors, le film d'aujourd'hui, c'est une machine de guerre. C'est 11 Oscars, dont ceux du meilleur film et ceux du meilleur réalisateur. C'est le plus gros succès au box-office pendant 11 ans, box-office mondial, jusqu'à être détrôné par un film du même réalisateur, qui est Avatar. Voilà, pas dégueu. Aujourd'hui, c'est un film qui appartient au panthéon de tous les films connus, reconnus, tournés, détournés, bref, hein, c'est un film culte. Mais le culte, ça peut avoir des saveurs particulières. Ça peut rendre service au film, ne serait-ce que d'un point de vue financier, intellectuel, mais ça peut être aussi à ses dépens. Et c'est, je crois, le cas du film qui nous intéresse aujourd'hui. C'est un film culte, un film romantique, niais, une histoire d'amour avec deux jeunes premiers, la bande originale de Céline Dion, parfaitement mielleuse, un film catastrophe dont on connaît déjà la fin avant le début, des répliques détournées à de nombreuses reprises, « Jack, je vole !» Bref, c'est l'héritage et parfois complexe à assumer. Mais c'est d'ailleurs toute l'ironie de ce film-là, c'est un film qui parle d'une arrogance humaine, de son défi raté contre les éléments. C'est un film qui en lui-même est une œuvre monumentale qui a pu perdre de sa superbe. Alors moi j'étais moi-même perplexe quand on m'a proposé, mon invité en tout cas d'aujourd'hui m'a proposé ce film, il a tenu à en parler parce que ça lui tenait à cœur, et moi-même le revoir ça a permis de comprendre à quel point le film culte et les détournements ont pu remplacer dans mes souvenirs le regard que je me faisais de cette œuvre qui au demeurant possède des qualités réelles. Et donc quand cet invité m'a dit qu'il voulait pas tant parler de l'amour que de l'épave, j'étais plutôt motivé à parler de cette émission. Donc vous l'avez compris, aujourd'hui on est entre vrais bonhommes et on va parler de Titanic.
Are you ready to go back to Titanic?
Okay, here we go. She hits the berg on the starboard side, right? She kind of bumps along, punching holes like Morse code, dit dit dit, along the side, below the waterline. Then the forward compartments start to flood. Now, as the water level rises, it spills over the watertight bulkheads, which unfortunately don't go any higher than E-deck. So now as the bow goes down, the stern rises up, slow at first and faster until finally she's got her whole ass is sticking up in the air. And that's a big ass. We're talking 20, 30,000 tons, okay? And the hull's not designed to deal with that pressure. So what happens? She splits right down to the keel. And the stern falls back level. Then as the bow sinks, it pulls the stern vertical and then finally detaches. Now the stern section just kind of bobs there like a cork for a couple of minutes, floods, and finally goes under about 2:20 a.m., 2 hours and 40 minutes after the collision. The bow section planes away, landing about a half a mile away, going 20, 30 knots when it hits the ocean floor. Pretty cool, huh?
Thank you for that fine forensic analysis, Mr. Bodine.
Donc ce qu'on a entendu à l'instant, c'est le début de Titanic. C'est le moment où un ingénieur explique à Rose, âgée, tout le déroulé du naufrage du Titanic d'une manière très scientifique et très froide. Donc c'est ça qu'on a entendu un peu avec cet accent américain à coupe au couteau. Donc voilà, on comprend pas tout ce qu'il dit le mec, mais j'ai préféré expliquer quand même. Donc, comme je disais, c'est un film, c'est assez fou à quel point on peut se faire influencer par le culte, et j'estime que c'est un peu le cas de pas mal de films, comme tous les films cultes comme Shining ou Pulp Fiction ou même Star Wars, des choses qui ont une vraie dramaturgie mais qui peuvent être atténuées par le détournement qu'on en a fait depuis. Et c'est pour ça déjà que je voulais te remercier, Louis, pour m'avoir fait revoir un film sur lequel j'avais des mauvais a priori, alors que j'avais déjà vu le film en fait. C'est un tour de force et on se rend compte de ça à la fin. Je vais te présenter. Bonjour Louis, déjà.
Bonjour Samuel. Quel sens de la formule pour l'édito que tu viens de nous faire. C'est magnifique. Alors, c'est au détour d'une conversation qu'on s'est dit pourquoi pas analyser ce film. Et du coup, on est parti sur cette apérophonie. Donc, moi, je suis Louis. Je suis habituellement le technicien de Radio Campus Grenoble. Donc, un peu plus à l'aise de l'autre côté de la régie que du côté plateau. Mais, je suis content de faire cette apérophonie avec toi. Et je pense que c'est un sujet qui mérite d'être peut-être approfondi, un film qui mérite d'être analysé.
C'est ce que tu avais l'air de dire. Ouais, donc je suis encore pas allé très loin, histoire d'avoir des invités. Je vais un peu dans tout ce qui est bureau de Campus Grenoble, quoi. Mais justement, on parlait pas mal de ciné. Et toi, tu m'as parlé beaucoup de Titanic, et c'était quelque chose qui t'est cher, vraiment. Et ouais, ça m'intéressait. Moi-même, à la base, j'étais bon, ok, de quoi on va parler, je sais pas trop. Et en fait, effectivement, il y a pas mal de trucs à dire. Donc déjà, pourquoi t'as choisi ça? Pourquoi il t'est cher, ce film?
Alors pourquoi j'ai choisi ce film? Alors est-ce que je l'ai réellement choisi, ou alors est-ce qu'on a choisi tous les deux d'en parler?
Alors c'est le destin qui l'a choisi.
C'est le destin qui l'a choisi pour nous-mêmes. Alors Titanic, c'est vrai que avant j'étais comme toi, j'avais cet a priori. Je disais moi-même, jeune, je disais ouais Titanic, non pas Titanic, c'est un film, c'est un faux film sentimental. Enfin bref, je l'avais même jamais revu comme toi, et j'avais des faux a priori, des fausses appréciations dessus. Et en fait, je l'ai revu et j'ai vachement accroché. Et autour de moi, je disais, ouais, en fait, c'est trop bien, Titanic. Et les gens me disaient, bah, c'est pas ouf, quoi. Alors c'est pour ça que je pense que c'est important d'en parler. Moi, je regarde assez régulièrement, quand même, depuis quelques années. Et ça s'avait même étonné, toi, je me rappelle.
Ouais, c'est ça. Donc, ouais, que ce soit un film que tu veuilles défendre à fond. J'avoue, ça m'avait. En vrai, c'est des a priori à la con, mais ouais, effectivement. Est-ce qu'on va jusqu'à décrire c'est quoi Titanic dans son histoire?
On va peut-être pas spoiler
Ouais, c'est ça. Non, mais en fait, justement, c'est ça qui est intéressant. C'est un film qui va donc relater les événements de la catastrophe à travers le regard de Rose, ce personnage féminin, qui est une femme de 100 ans et qui va revenir sur son souvenir du naufrage. Et sur son amour pour Jack, qui est incarné par Leonardo DiCaprio, qui est un jeune homme pauvre qui va en gros l'aider à se libérer de ses chaînes de filles de bonne famille, ouais, un truc un peu comme ça. C'est vrai qu'on n'a pas parlé du casting aussi, qui est quand même pas dégueu aussi. Enfin, DiCaprio, Kate Winslet, donc on a. C'est pas mal. Et puis Cameron, qui avait donc fait Terminator 1 et 2 en 84 et 91, et il avait fait Abyss en 89, toujours dans le thème de l'eau, toujours. Et puis Avatar récemment, 2009, il s'est auto-dépassé en faisant Avatar en termes de box-office. C'était un choix qui m'avait un peu surpris, parce que bon, je demande un peu autour de moi quel film ils aiment, et c'est vrai que je m'attendais pas à ça, et c'est dur à dire en fait, je m'attends pas à ça du point de vue d'un mec, et du coup moi j'avais énormément d'a priori moi-même sur ça, et donc ouais, comment tu pourrais, qu'est-ce qui fait que tu as eu envie de défendre ce film en particulier, qu'est-ce qui t'a marqué?
Alors, ce qui m'a donné envie de défendre le film, c'est d'abord quand j'ai fait déjà le cheminement personnel, de faire abstraction de ce que les gens en pensaient, et de, voilà, je peux être un mec qui aimait le Titanic, et je trouve que c'est pas un faux film sentimental, c'est une jolie histoire d'amour, et c'est, au-dessus de l'histoire d'amour, ce que j'ai aimé, c'est, on va en parler plus tard, c'est vraiment ce rapport qu'il y a avec le naufrage, avec une grosse masse d'acier qui coule, une grosse construction humaine qui coule, et qui est inaccessible en soi. Et je pense que Cameron avait aussi ce rapport aussi à l'eau, à l'inaccessible, à l'épave, à l'abysse.
En profondeur, ouais.
Tout ce qu'il y a en profondeur, voilà. Et est-ce que c'est un prétexte? Est-ce que le Titanic était un prétexte pour parler d'une histoire d'amour? Est-ce que l'histoire d'amour était un prétexte pour parler du Titanic?
Voilà. Ouais, on va un peu parler de ça, voilà. Je pense, justement. C'est un peu ça dont on réfléchissait il n'y a pas longtemps. Mais alors du coup, on va revenir un peu à la base. À quel moment t'as vu pour la première fois ce film-là?
Alors j'ai vu pour la première fois, enfin la première fois où il m'a marqué, c'est-à-dire où j'avais la conscience de me dire tiens, ça me marque, tiens, ça me touche. C'était quand j'étais enfant. Alors je saurais pas te dire quand, mais c'était dans le cadre du primaire. Donc j'avais vu avec mes parents et j'étais enfant, donc en dessous de 10 ans. Et là, il m'avait marqué une première fois. Après, je l'ai plus regardé pendant nombreuses années, non pas que je me l'interdisais ou quoi, c'est juste que j'avais pas forcément envie de le regarder. Et puis à un moment, je me suis repassé tous les films que j'avais kiffé ou qui m'avaient laissé une marque durant mon enfance, et je me suis dit, tiens, Titanic, pourquoi pas, j'ai un bon souvenir, j'ai envie de le regarder. Donc c'est là que ça a commencé, le premier visionnage, ça a été là, et après, j'ai pu approfondir ce que j'avais peut-être ressenti quand j'étais plus jeune en le regardant à nouveau quelques années plus tard.
Ok, ouais, et ça t'a apporté quoi de le revoir justement, en fait, qu'est-ce que ça a fait à ce moment-là ?
Eh ben, le revisionnage, je pense que ça a confirmé en fait ces espèces de sentiments que j'avais eu en le regardant petit, que je m'expliquais pas trop. Il y avait des choses qui me marquaient, des choses dont on va parler après, ouais. Des scènes, même des scènes très précises, très très courtes, très brefs, qui m'avaient marqué. Et je pense que de le regarder à un âge un peu plus avancé, ça m'a permis de confirmer ce que j'avais ressenti. Et c'est vrai que quelque part, tu ressens toujours, parce que c'est une sensation qui t'a marqué, et du coup, même en étant plus âgé, tu arrives à retrouver un peu ces sentiments que t'as eu.
C'est important de retrouver justement ces émotions-là. C'est quoi comme type d'émotion que tu retrouvais comme ça ?
Alors, c'était beaucoup de fascination, de la peur, mais de la peur dans le sens... pas de la peur, mais de la peur dans le sens où on est impuissant. On est impuissant et... Et là, on ressent vraiment l'angoisse, on ressent vraiment l'espace étriqué, quel bateau, on ressent tout ça. Quoi.
Donc tu veux t'infliger régulièrement comme ça, ouais. Un petit shot d'angoisse.
Exactement.
Sur « Ah merde, on va tous crever » et tout.
Ouais, exactement.
Ok, ouais, mais comment ça se fait ça,
non, alors...
C'est un côté crépuscule dans ta vie.
Non, je pense que c'est pas des peurs réelles, parce que c'est pas quelque chose qui va forcément m'arriver, mais c'est juste que je me dis que je retourne quelque part en enfance en retrouvant des sentiments que j'aurais peut-être pas eu en découvrant le film un peu plus tard. Je pense que, comme on dit souvent, il y a des périodes pour regarder des films, et c'est grâce à ça qu'ils peuvent marquer. C'est vrai que si on regarde les mêmes films plus vieux pour la première fois, ben on n'a pas les mêmes. Donc non, c'est pas du masochisme, c'est plus c'est plus que moi j'aime beaucoup regarder plusieurs fois les mêmes films. Je regarde des dizaines de fois les mêmes films que j'adore, et je trouve que j'aime bien retrouver les sentiments que j'avais, approfondir un peu et revenir un peu sur ce que je pouvais ressentir pour voilà, me l'expliquer.
Tu
moi-même.
Regardes quoi d'ailleurs comme autre film, des films qui ressemblent un peu à ça, qui te font...
Ouais, alors non, pas forcément qui ressemblent un peu à ça. Je sais que les films que je regarde tous les ans, ça va être Le Parrain, ça va être Laurence d'Arabie, que j'adore comme film. Ça va être Casino Royale. J'adore Casino Royale.
Ouais, James Bond.
Ouais. Ça va être aussi 2001 l'Odyssée de l'espace, que je regarde peut-être pas tous les ans parce qu'il est voilà, il est peut-être pas
faut le laisser reposer celui-là.
Ouais. Il est pas compatible tous les ans, je pense qu'il faut voilà, mais j'adore ce film. Après il y a beaucoup de après ça c'est vraiment les films que je re-regarde tous les ans. Ouais, il y a Vol au-dessus d'un nid de coucou, des trucs comme ça, voilà.
Ouais, plutôt des classiques quand même.
Des classiques, ouais.
Et en fait, parce que ça te permet de retrouver des émotions, en fait. Si ces films-là sont des médiateurs vers des émotions que tu as reçues avant...
C'est ça. J'ai peut-être plus privilégié le fait de retrouver des émotions que j'avais eues plutôt que d'aller peut-être en chercher de nouvelles avec d'autres films. Enfin, je me force pas à chercher plus... des fois, j'aime bien revenir sur...
Ouais, t'as l'impression que tu vas pas suffisamment chercher de nouvelles choses, des nouvelles émotions, ou parce que justement, tu les retrouves pas, ces émotions. Est-ce que tu recherches ces émotions, en fait, plutôt que voir un film que t'aimes bien ?
Eh ben, en fait, je les laisse plutôt venir à moi. C'est-à-dire que dès que je suis dans un contexte où je découvre le film, là, ça se trouve, le film va être percutant et je vais adorer, mais moi, c'est ma personnalité, même dans la musique. Genre, quand j'aime bien une musique, j'écoute pas tout l'album, j'écoute la musique. Et dès qu'un jour, j'ai envie d'empiéter sur une autre track, j'écoute l'autre track. Mais voilà, c'est jamais un truc où je vais chercher moi-même, mais je fonctionne comme ça. Donc, et pour les films, du coup, c'est pareil. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas regarder plusieurs fois les mêmes films. Moi, j'adore ça, surtout les films que j'aime bien, parce que les films chiants, bah.
Oui, voilà. Oui, non, c'est vrai que moi, je suis pas vraiment comme ça, mais du coup, je me demande qu'est-ce qui fait que tu t'en lasses pas de ces films-là, en tout cas même de Titanic. Déjà, si on revient à Titanic, qu'est-ce qui fait que ça, tu vas pas t'en lasser ?
Eh ben, je m'en lasse pas, parce que comme je connais à force pas mal les scènes, je sais quand est-ce qu'elles arrivent. En fait, j'attends, je sais que ça va arriver, j'anticipe, et j'ai un anticipement émotionnel. Et dès que ça arrive, hop, là c'est trop cool, et j'anticipe, je connais la fin, je connais la chute.
ça c'est OK.
Je connais la chute, je connais les moyens qui vont arriver à la fin, mais je les attends, j'attends des paliers de l'histoire, et dès qu'ils arrivent, ben j'aime bien me rappeler les émotions, me dire tiens, pourquoi j'ai ressenti ça ? Ouais, c'est ça. Et Titanic, c'est un film qui le fait quand même pas mal.
OK, bah ouais, bah justement, en fait, en si on revient sur ces étapes, comme tu dis, moi j'étais surpris de voir en le revoyant que ouais, Titanic c'est très bien compté en fait, compté, bien raconté en tout cas. Je trouve que Cameron il fait un très bon travail là-dessus à travers le regard de Rose et c'est et de la manière dont elle va parler d'une petite histoire concrète pour en fait être en filigrane de la grande histoire, quoi, on va dire. Et d'ailleurs, ce que j'ai pu noter, je crois, c'est que les actions de la vraie catastrophe, comme elle s'est passée, comme elle s'est déroulée, sont plus ou moins bien retranscrites, bien suivies. Ça va du capitaine qui fait avancer son bateau trop vite alors qu'il ne voulait pas, à la base. Les coups de feu dans la panique, choses comme ça, qui sont les matelots qui voient aussi l'iceberg trop tard. Aussi, j'ai l'impression qu'il n'y a pas une volonté non plus, je trouve, de refaire une reconstitution historique. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais c'est pas ce que j'ai ressenti.
Oui, alors je pense pas non plus qu'ils voulaient faire une reconstitution historique parce que l'histoire principale c'est quand même centrée sur des personnages qui n'ont probablement pas existé ou alors ils étaient peut-être inspirés de personnes qui ont réellement existé. Mais oui, je pense pas qu'en soi c'était de faire une reconstitution historique. Je pense que c'est un sujet qui le passionnait quand même pas mal et il a dû un arrêt des faits qui sont réellement passés, mais par souci juste de conformité avec l'histoire. Mais voilà, je trouve que
ouais, la véracité elle est secondaire complètement. Et justement, en fait, moi, ce que je pense, c'est que cette histoire d'amour, c'est un peu un prétexte, peut-être, même si prétexte ne veut pas dire négliger. Hein,
ouais, bien sûr, bien sûr.
Elle est très très belle, cette histoire d'amour.
Bien sûr.
Mais du coup, est-ce que ce ne serait pas un prétexte pour en fait, parler justement de ce naufrage-là qui le passionne peut-être autant, James Cameron?
Peut-être, alors peut-être qu'il est très sensible à l'histoire d'amour et aussi au naufrage, et du coup, il a fait aussi, un crossover de ces deux passions. Mais oui, alors je ne sais pas s'il a trouvé un prétexte plus qu'un autre, mais oui, peut-être qu'il y avait ce prétexte pour parler du Titanic. C'est vrai que parler du Titanic, il faut centrer l'histoire sur quelqu'un, on ne va pas centrer l'histoire des gros plans sur le bateau pendant tout le film. Il faut une histoire, il faut des personnages, donc il y a l'histoire d'amour qui est quand même décriée, c'est une histoire d'amour, c'est Roméo et Juliette, c'est l'amour impossible, c'est l'amour interdit, mais au final, est-ce que l'amour interdit, c'est pas l'amour le plus beau, je veux dire, une histoire d'amour cousue de fil blanc, c'est moins intéressant.
Ils nous ont à chaque fois.
Voilà.
Ouais. Non, c'est ça, mais en fait, ça crée une identification, quoi. Ça crée une empathie directe pour les personnages et pour l'histoire. Ça ramène à quelque chose de plus humain. Enfin, c'est même le propos du film, d'ailleurs. Ouais. C'est ce qu'on a entendu dans le premier extrait, pour y revenir. C'est qu'au début, on part d'une explication complètement scientifique et froide de ce que le naufrage. Et en fait, le propos, c'est d'y revenir en termes d'émotion, en termes de désastre humain.
Bien sûr, d'où ta bonne idée d'introduction avec l'extrait de Titanic reconstitué par ordinateur. Très froid.
Ouais.
Très froid, sans jeu de mots, avec l'eau.
qui est vraiment très froide aussi. Oui, donc voilà, c'est ça, c'est vraiment tout le propos du film. Et d'ailleurs, c'est même le nom du bateau, qui est le Titanic, qui reflète cette volonté de l'humain d'être d'être arrogant aussi, d'avoir une ambition. Et c'est d'ailleurs, je pense que c'est beaucoup quelque chose qui est repris par les mouvements écologistes comme, on va dire, comme métaphore. C'est trop gros, trop lourd, ça va trop vite, on le pousse trop au max, quoi. C'est quelque chose qui reflète pas mal l'outrance, ouais.
Bien sûr. Et c'est vrai que si on avait pas connu l'histoire, on aurait eu confiance au début du film. Si ça avait été une histoire inventée, on aurait eu confiance. Tout portait à croire que oui, c'était insubmersible. C'était insubmersible et personne ne pouvait le contredire et rien ne pouvait non plus le.
Ça aurait fait un sacré twist de fin si on n'avait pas su que en fait il y avait un naufrage à la fin.
Peut-être, ouais.
Ouais. Je voulais aussi un peu aborder justement ce bateau en fait qui est assez impressionnant de la manière dont il est filmé. Que je qualifierais de huis clos à grande échelle, en tout cas sur un paquebot, mais qui est perdu au milieu de la mer. Est-ce que ça te parle, cette idée-là
Ouais, alors l'idée du huis clos, c'était pas la première idée que j'avais eue à l'esprit, mais c'est vrai que c'est une idée assez légitime et assez juste à soulever. Ouais, le Titanic, c'est un grand huis clos du fait du danger qu'il y a tout autour, c'est-à-dire l'eau aux alentours de 0 degré. Et donc, ouais, c'est un huis clos parce que la zone de confort est à l'intérieur, et dès que cette zone de confort, cette zone de sécurité commence à être atteinte, commence à avoir une brèche, et ben du coup, le huis clos se brise et là on est en danger
exactement permanent. En fait il passe la moitié du film à créer une sécurité autour de ce bateau qui pour moi, et c'est d'ailleurs le signe d'un bon huis clos, c'est qu'on va énormément visiter ce bateau. On pourrait même faire une cartographie de ça, on a la salle des machines, on a les appartements, le salon, on a le pont supérieur, etc. Donc on, au rythme des jeux de Jack et Rose, justement les jeux amoureux qui se poursuivent, tout ça, donc ça permet en fait de visiter un peu le bateau, et ça c'est plutôt intelligent en fait, ça permet de, comme tu disais, de créer la sécurité et de créer une familiarité avec ce bateau.
Et le bateau, je pense, est assez grand pour qu'on puisse s'y perdre au niveau de l'histoire d'amour, mais pas assez... trop petit pour qu'on puisse y perdre très longtemps. Et c'était ça beaucoup, ce jeu qui tournait autour du bateau, et que finalement il n'y a pas 10 000 endroits où aller, et qu'au final on finit toujours par se retrouver. Et c'est un petit peu ça l'angoisse aussi qui s'en dégage.
C'est ça, bah, comme tu dis exactement, on finit par se retrouver, on finit toujours par tourner en rond.
C'est ça.
C'est aussi le propre du huis clos, je pense, ouais. D'être à l'enfermement, et tourner en rond, la répétition,
c'est ça.
Éternelle. Et oui, c'est vrai qu'avant de préparer cette émission, on en parlait un petit peu, mais avant de la faire en tout cas, je faisais une allégorie avec Scream, avec la scène d'intro de Scream, qui est, elle aussi un peu fonctionne comme un huis clos, puisqu'on a ce personnage féminin qui est dans sa maison, on a beaucoup de plans séquences qui permettent de voir le salon, et la menace est à l'extérieur du salon, jusqu'au moment où la menace rentre dans le salon, et il y a même le feu qui se déclare dans le salon, ce qui fait qu'elle est obligée de sortir.
Et pour moi, cette scène-là dans Scream, d'ailleurs, c'était l'extérieur qui nous veut du mal, et que dès que le mal rentre au sein du huis clos, au sein du lieu de l'action, et ben l'extérieur devient salvateur, parce que moi j'ai envie de lui dire « Sors, cours, sors de la maison, c'est pas salvateur. »
Mais finalement, c'est ça qui est le terrible dans tout ça, c'est qu'en fait, il n'y a aucun échappatoire.
La tendance du drame s'inverse, et du coup, le huis clos, il y a des films où le huis clos est « on doit s'en échapper ». Ouais. Et d'autres films où le huis clos, c'est la sécurité, c'est salvateur. Là, on est plutôt sur cette configuration-là.
Bah, le vrai bon drame, c'est que t'es en sécurité nulle part. En tout cas, Titanic, c'est ça, clairement.
Dès que l'extérieur rentre dans le bateau, c'est-à-dire l'eau, dès que l'extérieur rentre dans le huis clos, et ben, ça peut être soit dans Scream, le tueur qui rentre, donc la menace qui rentre, et là, c'est l'eau en soi.
Exactement. Donc sur cette réflexion sur le huis clos, on va pouvoir passer à la pause musicale. Donc, je t'avais demandé de choisir une musique. Ouais. Je te laisse nous dire ce que tu as choisi. Pourquoi d'ailleurs tu as choisi cette musique-là ?
D'accord. Alors, c'est une chanson, une musique qui s'appelle Face à la mer. Et ce n'est pas de Calogero, c'est des négresses vertes. Les paroles sont assez raccord avec le thème qu'on a choisi. Je pense que c'est peut-être le plus raccord. C'est une chanson qui me tient à cœur. Et voilà, il y a cette histoire de mort, d'eau, de mer. Et puis une musique que je trouve très belle. Donc on va pouvoir l'écouter.
Et ben oui. Donc, Louis, je te propose qu'on se retrouve après sur Campus Grenoble 90.8.
Pour les
C'est donc les Négresses Vertes avec Face à la Mer. Donc on est toujours sur Campus Grenoble 90.8 et je suis avec Louis donc, qui nous parle toujours de Titanic, du film Titanic qui l'a profondément marqué dans son enfance. Et on va pouvoir voir d'ailleurs un peu plus profondément pourquoi tu kiffes ce film tout simplement. En fait. Pourquoi ça t'a procuré des émotions quoi, tout simplement.
Une des raisons que j'ai le mieux réussi à sortir de pourquoi exactement. J'ai aimé ce film.
Voilà. Et donc ouais, on va passer la scène justement qu'on va pouvoir analyser, qui est pour remettre en contexte, donc c'est le naufrage, hein, c'est la merde, on va dire, et que à ce moment-là, on a les violonistes qui vont se mettre à refaire un peu de musique, leur dernier morceau, et on va avoir beaucoup de plans sur des occupants du bateau qui font leurs adieux à leurs proches.
Des plans très tristes avec une musique très triste.
Bien triste comme il faut.
Très très triste.
Donc voilà, on va mettre cet extrait. À la cool, en train. À la cool, putain, c'est blague de merde, même pas voulu.
À la oui, cool, à la cool, à la je viens cool, de la comprendre, à la cool,
cool, bien, nickel, ouais.
Parfait.
donc, ouais, sur une bonne ambiance. Comment tu décrirais cette scène, toi, avec tes mots
Avec mes mots. C'est vrai que c'est peut-être la scène la plus clichée d'un point de vue peut-être émotionnel, mais ce n'est pas que pour les violons, même si les violons accentuent un peu cette tristesse et quelque part la dessinent aussi. Alors comment j'ai décrit, c'est une scène triste, c'est une scène dramatique, oui. C'est sûr.
Ah, je crois,
sûr. Mais c'est cette scène qui m'a marqué, peut-être plus au niveau
visuel et aussi en fait que le moment que ce moment qui m'a marqué, ouais. c'est le seul moment en fait où il y a des lignes de dialogue. En fait, tous les autres moments, il n'y a aucune parole, il n'y a que de la musique, ouais. le reste est en muet. Et là, il y a des lignes de dialogue, comme si... Et là, ces lignes de dialogue, ça m'a fait me dire, quand j'étais petit, tiens, là, c'est plus important. Là, c'est vraiment dramatique. Là, on essaie plus de tirer forcément les émotions en jouant du beau violon.
Oui, c'est la femme qu'on entend dans l'extrait, à un moment
c'est
donné.
C'est ça, ouais. la femme qu'on entend dans l'extrait, exactement.
Et ouais, du coup, elle raconte quoi, cette femme ?
Alors, c'est vrai qu'on n'a pas l'image à la radio, donc...
voilà, c'est une prérogative, effectivement, voilà, on va dire.
On voit l'eau qui rentre, on voit les gens qui savent, qui pourront peut-être avoir une place pour sortir, pour s'en sortir, ouais. et les gens qui se résignent, en fait, à leur sort, et qui savent que, ben, ils vont mourir. Et il y en a qui préfèrent pas forcément lutter. Et donc, on voit des vieux qui dorment dans un lit, avec l'eau qui coule sous le lit.
Ouais.
Et on voit aussi une mère avec ses enfants qui leur raconte une histoire dans une manière vaine de les faire s'endormir en paix, parce que du coup, ils vont vraiment dormir en paix cette fois-ci. Et on entend l'eau qui arrive derrière. Et donc, là, on sait que la mère les prépare à la mort. Et on sort ces lignes de dialogue pour dire, là, c'est important...
Ouais, c'est ça, c'est le seul moment, oui, c'est ça, c'est vrai que c'est un peu le seul moment où il y a ça, elle raconte l'histoire, et l'histoire en elle-même veut dire, bah salut,
c'est ça,
à plus,
voilà,
quoi.
Voilà.
Ouais, ouais. Et du coup, donc, en quoi ce choix, pour toi, il est représentatif de l'ensemble du film et de ton amour pour lui ?
Parce que, pour une fois dans le film, on n'est pas dans du... Pour moi, on n'est pas dans du cinéma, c'est-à-dire que la romance entre Jack et Rose, c'est du cinéma, c'est une belle romance, mais qui reste narrée, qui reste une histoire. Et là, quand on arrive du coup ici, je me dis, en fait, ça peut se passer, enfin, ça s'est passé, ça peut se passer. Et là, en fait, l'action paraît tellement vraie, ce qu'une mère désespérée pourrait faire, sachant qu'elle peut pas sauver ses enfants, elle va pas sortir avec ses deux enfants sous le bras, donner un gros coup de pied dans toutes les portes, tuer quelqu'un pour prendre un canot. Et ça, c'est peut-être la réaction la plus vraie, je pense, qui aurait pu arriver. Et du coup, je m'identifie vachement à ce truc et je me dis que. Et quand j'étais petit, je pense que ça m'avait marqué parce que pour moi, c'était le parent impuissant face au drame, face à la mort de l'enfant, ce qui est pour un parent, je pense, la chose la plus horrible qui puisse arriver. Et je me dis que là, le parent est impuissant. Le parent qui peut tout faire, le parent qui protège, là, il est lui-même est impuissant.
Ouais, c'est ça, c'est le moment où tu as pris conscience que le parent est faillible et que tu pourrais perdre tes repères si ça pourrait arriver, quoi.
C'est ça, c'est... quand j'étais enfant, en tout cas, oui. Et...
Ouais. Ouais, c'est un truc que tout le monde a comme expérience, je pense, mais je voilà, pense. C'est marrant que toi, ça arrive avec Titanic, ouais. avec c'est vraiment cette micro-scène qui dure vraiment pas longtemps et qui puisse te traumate.
Ouais. Mais traumatisé dans le bon sens, j'ai envie de dire. Ouais. C'est pas un traumatisme qui m'a fait me sentir mal. C'est un traumatisme où je me suis dit, tiens, ça peut arriver. Et qu'est-ce que c'est triste et qu'est-ce que c'est dramatique, quelque part. Ouais. Et c'est beau dans le sens, c'est beau où ça tire vraiment les émotions. Et là, n'importe quel violon, n'importe quel plan sur quelqu'un qui pleure, n'importe quelle prestation théâtrale pourra pas égaler, je pense, ce genre de scène.
Et c'est ces émotions-là que tu recherches, du coup, quand tu regardes le film. Est-ce que ça en fait partie de ça, cette mise en danger du repère parental, quoi ?
Ouais.
Ouais,
ouais, bah je m'attends à ressentir ce que je ressentais en étant enfant. Bien sûr, je sais que je ne ressentirais pas à ce point-là, mais je me dis, c'est quand même fou que même après, ça me remarque encore. C'est assez nostalgique, en fait.
Ouais, ouais, en plus, comme tu le disais, cette scène, elle est un peu cliché. Il y a les violons. Et tu parlais de la réaction de cette femme face à la mort et à la mort de ses enfants. Et effectivement, en fait, il y a une résignation dans cette scène qui moi, m'a frappé quand je l'ai vue aussi. Pour moi aussi, on n'avait pas parlé, mais c'était un peu la scène aussi qui m'a plus marqué. C'est le fait que vraiment, avant, on a une musique qui est assez dans l'action. Et après aussi, d'ailleurs, mais on a cette espèce de parenthèse où on est résigné à la mort. Il y a une espèce de moment doux, amer, comme ça, qui se fait. On sait qu'ils vont tous crever. On sait, c'est la fin, quoi.
C'est ça. Et puis, en plus, c'est pile le moment de transition où l'intérieur devient un danger et l'extérieur devient limite même plus salvateur. C'est-à-dire que l'océan Atlantique à 0 degré, à côté des icebergs, devient même plus salvateur qu'un bateau qui est en train de couler. Parce qu'un bateau qui est en train de couler, c'est possiblement arrêter de respirer à un moment. Donc, on cherche même à sortir en sachant qu'on court à notre perte. Que les naufragés coulent.
Ouais, ça, c'est le moment charnière où le huis clos se dilue dans la mer. Ça va se confondre dans le danger, quoi.
C'est ça. Et puis, la venue du danger est quand même très lente dans le rythme du film. C'est-à-dire que c'est pas un tueur qui rentre dans ta maison et tu sais que t'es en danger immédiatement.
Ouais.
C'est-à-dire que
le bateau a touché, on sait qu'il va couler. On attend l'approbation un peu de l'architecte, l'approbation du capitaine du bateau. On attend leurs deux approbations, en fait, mais on est en suspens. C'est en suspens. Tout va bien, mais tout va mal à la fois.
Ouais.
Et bien sûr, image de la société, c'est les classes du bas qui souffrent en premier.
Ça remonte.
Bon, au final, les premières classes s'en sortent pour la plupart. Donc,
oui, c'est ça, il n'y a pas assez de canaux pour tout le monde. Et comme par hasard, les pauvres qui n'en ont pas assez. Et il y a ce truc un peu inexorable aussi dans cette montée des eaux, très lente. Et en même temps, on voit arriver, on ne peut rien faire, on est impuissant, comme tu disais. L'impuissance est vraiment présente. Quoi.
Et on cherche ce côté paternel du constructeur du navire et du capitaine. Et on se dit que bon, dès qu'eux disent que c'est mort, là c'est vraiment mort, quoi, il n'y a plus d'espoir.
Et pour revenir un peu sur ces violons-là, justement, ces violons, ils viennent pas de nulle part. Parce que juste avant l'extrait qu'on a passé, c'est les violonistes, c'est le groupe qui officiait lors des banquets luxueux là, dans le Titanic. Ce sont eux qui vont jouer du violon. Donc c'est une musique qui est in, quoi, qui est vraiment que tout le monde pourrait entendre, que tout le monde entend. Je trouve ça intéressant parce que justement ces violonistes là ils m'ont touché aussi parce que c'est des personnages très secondaires, mais pourtant ils sont là et ils vont avoir quelque chose de très touchant. Ils vont dire on fait notre dernier morceau, tant pis, on y va, on est tous ensemble. Et en fait j'ai trouvé que c'était intéressant, ça m'a fait un peu tilter que les personnages secondaires sont très bien caractérisés dans ce film, et notamment là, c'est le cas pour le capitaine, pour le l'architecte du bateau, le constructeur aussi.
Ils ont une plus-value,
exactement. Et ils sont, en fait, ils sont là un peu en filigrane, ils sont un peu partout, un peu disséminés comme ça. Il y a des petites scènes avec eux, genre qui vont faire un espèce de compte à rebours, genre vraiment la fin est proche. On sait que ça arrive et ça met plein de petits signes annonciateurs.
C'est ça.
Et donc on a une puissance aussi face à cet amour qui naît et qui est tout autour. C'est la merde.
Et c'est ça. Et ils jouent bien aussi le rôle de fondation de l'histoire principale, c'est-à-dire qu'ils apportent aussi leur pierre à l'édifice de l'histoire qu'il y a, notamment entre Rose et Jack. Et voilà, je pense comme toi que leur rôle est vraiment pas secondaire. Et...
Ouais, c'est ça. C'est ce qui fait la grande histoire, on va dire, entre guillemets. Mais ils sont vraiment, ça fait un univers très riche. Ça contribue à la richesse de ce bateau et aux détails qu'on peut trouver dans ce huis clos, en fait, je trouve. Ça va permettre le capitaine qui est complètement désabusé et qu'il est en état de choc au moment du naufrage. Bien parce sûr. Qu'il pensait pas du tout que ça puisse arriver. J'ai une phrase que je trouve marrante dans le film, c'est à un moment donné on lui dit les femmes et les enfants d'abord, et on voit dans son regard qu'il sait en fait qu'il est le dernier à rester normalement.
Bien
on
sûr.
Sait qu'il comprend, c'est le moment vraiment où il comprend que merde, en fait je suis le dernier et je vais crever.
C'est ça.
Et enfin voilà, ça passe dans des choses très subtiles comme ça, et ça met un hors champ qui est très significatif, je trouve, dans ce film, qui donne de la richesse, de la profondeur à cet univers-là, en tout cas, ça fait un univers à part entière, quoi.
Bien sûr.
C'est un peu ma marotte, les univers et le monde clos et le huis clos. Si vous écouterez une autre émission que j'ai faite,
c'est vrai qu'on parle aussi de l'espace, du huis clos dans l'espace, dans les vaisseaux spatiaux qui sera porté aussi au Titanic.
Effectivement, quelque part, peut-être un peu de science-fiction dans Titanic.
Voilà,
je sais pas.
Peut-être. peut-être. C'est pour ça qu'on appelle ça un vaisseau, peut-être aussi dans le domaine maritime.
Bien sûr. Bien sûr, c'est ça. Exactement. Et oui, on voulait. T'en avais parlé un petit peu, la notion d'épave, justement, qui est hyper importante dans ton cheminement sur ce film. Alors, qu'est-ce qui te marque dans cette notion-là d'épave ?
Alors, la notion d'épave, par essence, c'est le fait qu'elle se trouve dans des zones déjà inaccessibles à l'homme, des zones hostiles à l'homme. C'est vrai qu'on a la fosse des Mariannes qui a 11 000 mètres de profondeur. On n'y allait que vaguement, on sait vaguement que c'est la zone la plus profonde, peut-être qu'il y en a d'autres, on connaît vraiment pas le fond de l'océan. Bon, c'est juste déjà cet effet un peu inaccessible, et cet effet aussi que le temps a un impact beaucoup plus important sur les épaves, parce que dans l'océan il y a du sel, il y a des coraux, il y a des poissons, il y a toute une vie subaquatique, et du coup on a ce vieillissement d'une épave, on a cette teinte, cette couleur, et ce fait qu'on ne puisse pas non plus y aller et qui est assez inaccessible. C'est une ruine, c'est les plus grosses constructions humaines qu'on n'a jamais pu réellement visiter et dont on ne pourra probablement jamais voir.
Ouais, c'est ça. C'est une ruine, effectivement, mais c'est une ruine qui en plus est inaccessible, parce que déjà la ruine va cristalliser toute une peur de la mort. Enfin, se confronter à une ruine, c'est se confronter à notre propre mort aussi du présent, que tout ce qui est autour de nous va être une ruine plus tard. Donc, c'est confronter au temps qui passe. Voilà, on est obligé, on est inexorable également.
Bien sûr.
Donc, c'est lié, voilà, à l'humain qui laisse sa trace mais qui meurt quand même.
Un lieu de vie qui s'éteint d'un coup. Et exactement. Là, c'est même pas un déclin sur plusieurs décennies. C'est d'un coup ça, figé dans le temps. C'est clairement figé dans le temps. C'est Pompéi. C'est figé. À l'instant T, bon après il a coulé, donc il y a eu un peu de remue-ménage, je pense, dans le bateau. Mais bon, il y avait sûrement des choses qui sont restées un peu en place, des désordres, ouais. Peut-être des gens dans le feu de l'action.
Oui, il y a beaucoup de choses qui sont restées un peu en bon état, même 100 ans après, il y a pas mal de choses qui restent encore, quoi. Et ouais, donc c'est ça, cette notion d'inaccessible est hyper intéressante, quoi. Ça fait que t'es encore plus mystérieux, quoi, d'aller chercher une épave où finalement on n'est pas dans notre milieu humain, on n'est vraiment pas dans son milieu naturel. Donc il y a une notion de danger, en plus c'est dangereux d'aller chercher la marque humaine.
C'est ça.
Donc ça met encore plus d'enjeux, quoi, je dirais. Je comprends ce que tu veux dire sur ça, quoi.
Et même au niveau de l'histoire d'amour, comme si l'amour entre Jack et Rose était finalement inaccessible et que les derniers témoins, ça a été Jack et Rose. Et il n'y a que dans ses souvenirs qu'elle va pouvoir revenir dessus. Donc je pense que c'est cette piste-là que Cameron avait aussi explorée pour faire le film. Et de l'amour un peu. De l'amour disparu, de l'amour où on n'a clairement plus que des souvenirs, pas d'objets, pas de lettres, pas de corps non plus enterrés.
Même si pour le coup, il retrouve des assiettes, des choses comme ça, il retrouve des coffres-forts. Donc il y a tous ces objets du quotidien. Enfin, coffre-fort peut-être un peu moins, mais en tout cas...
Oui, le coffre, oui, avec le...
Pour qui, peut-être oui. Non, mais en tout cas, les assiettes, les verres, les choses comme ça qui tombent. Je sais pas, il y avait quelqu'un qui disait, je sais plus qui c'était, mais les choses du quotidien sont les plus obsédantes, quoi, finalement. Ça qui rend les choses encore plus vivantes yeux. Et encore plus triste quand on voit que c'est un bol cassé, chose comme ça.
Mais quelque chose de tellement anodin que ça en devient beau quelque part. C'est vrai que c'est pas un objet qu'on va essayer de sortir de l'ordinaire qui va pour autant être le plus représentatif de ce qui a été une époque ou quelque chose d'autre. Donc les objets du quotidien qui sont vraiment porteurs d'émotions.
C'est ça, on en revient toujours à l'inquiétante étrangeté de Freud qui le bizarre, l'angoissant est dans le familier, est dans la répétition, dans le double. Le fait que ce bateau soit, on le découvre fastueux au début du film et qu'il soit après être complètement détruit, ça détruit le sentiment de sécurité qu'on avait, donc ça crée de l'angoisse. Pourtant c'est familier, mais ça crée une espèce d'inquiétante étrangeté, quoi.
Bien sûr, d'où la chanson de Camille, Home is where it hurts.
Ah ouais.
La maison c'est là où ça fait mal. Et, très belle chanson.
Ok.
Mais on l'a pas pour ce soir.
Et on l'a vraiment pas. C'est intéressant.
Pas grave, je viens d'y penser. Mais oui, le familier, le quotidien, c'est là que ça fait peur.
C'est ça. Et en Rotten, tu me parlais de la fin du film, la toute fin, parce que la notion d'épave est hyper importante dans le sens où il y a beaucoup de transitions fluides qui se font vers le bateau neuf, qui se font très régulièrement dans les films, et notamment à toute dernière scène.
C'est ça.
On va commencer par un plan dans le bateau, sous l'eau, avec les coraux sur les rambardes, etc.
Et avec la musique de Céline Dion par-dessus.
Et la musique de Céline Dion.
L'instrumental, pas les paroles.
Céline dans nos cœurs.
Céline dans nos cœurs, voilà. Oui, mais je te laisse.
Après, ça, le bateau devient neuf, et on a tous les habitants du bateau.
On rentre dans un couloir, le bateau est en épave, et là on a une transition visuelle et harmonique avec la musique aussi, et on arrive dans un bateau qui est reconstitué, et là il y a les portiers qui ouvrent la porte avec la belle musique, et là on voit, peut-être qu'ils l'ont remarqué, d'autres qui l'ont pas remarqué, c'est tous les gens morts dans le naufrage, de ce que j'ai compris, peut-être que je me trompe aussi,
mais je
crois que c'est tous les gens morts pendant le naufrage, et donc pas ceux qui sont vivants, j'en ai vu aucun qui avait l'air de s'en être sorti, et qui sont tous là avec un grand sourire aux lèvres, tout bien aligné, qui voit rentrer donc la caméra subjective qui avance dans le bateau. Donc on voit que c'est Rose, parce que le plan juste avant, la scène juste avant, c'était elle qui s'endort, donc on plonge dans ses souvenirs. Donc Rose va sous l'eau, rentre dans le bateau.
Qui meurt même, non? Elle meurt à ce moment-là peut-être.
Je sais pas si elle meurt.
Ce serait pas ça, genre elle rejoint. Quel twist dans cette émission, incroyable.
Quel twist.
Je pense qu'elle meurt, elle rejoint Tous les morts du Titanic.
D'accord.
Enfin, c'était
j'avais
ça.
Pas, je sais pas. C'est quoi, je pourrais pas savoir. Entre quelqu'un qui dort et quelqu'un qui meurt, j'ai du mal à voir la différence. Peut-être qu'en jetant le cœur de l'océan, bon, cette scène, je trouve qu'elle est pas forcément la plus belle et la plus utile du film. Quand elle jette le cœur de l'océan, peut-être qu'elle se jette aussi, elle, dans l'océan et que quelque part, c'est un peu son lieu de sépulture. Et donc, elle plonge dans le bateau, elle rentre. Et bien sûr, elle est en caméra subjective. Et là, il y a bien sûr le baiser final entre Jack et Rose. Qui fout les frissons quand même, il tire les larmes un peu. Allez. Il tire les larmes et il y a tout le monde qui applaudit et tous les gens. Voilà.
Bah si, c'est trop mignon.
C'est très mignon.
C'est très, c'est très très mignon. Tout à fait. Johanna, la technique se fout de notre gueule.
Oui, oui, oui. Oui. C'est elle pleure, elle est triste.
Ouais, non, c'est parce qu'elle. Ouais, c'est bon. Bah super. Ouais, donc oui, il y a un truc. Presque mystique, tu te disais, dans cette scène qui te touchait aussi, quoi. Tous les fantômes des.
C'est ça.
Qui sont restés dans le Titanic, quoi. Ouais,
moi qui ne suis pas superstitieux, ni je crois pas trop en ce genre de choses, mais c'est vrai que t'as quand même ce côté, ouais, mystique de tous ces gens morts, et c'est très, très fantastique aussi de voir tous ces morts, tous les morts du Titanic qui sont là, et que d'un coup le bateau, comme il a été figé dans un moment, il reprend vie. Bon, peut-être pas au moment où il a été figé, mais le bateau reprend vie. C'est l'épave qui reprend vie, parce que c'est vrai que dans notre tête, dès qu'on voit une épave et dès qu'on voit l'épave du Titanic, on se dit ouais, dans notre tête c'était comme ça, on revoit les moments qui ont pris vie. Mais là, le film le fait pour nous et nous refait vivre ces moments là et c'est peut-être ça qui apporte la dimension mystique. C'est peut-être une facilité émotionnelle de faire ça, mais en tout cas ça a marché sur moi et sur peut-être pas mal de monde aussi.
Ouais, sûrement, peut-être 2-3 petites larmes à la fin, probablement, c'est ça. Ouais. Ce que je te propose maintenant, parce qu'on va bientôt avoir terminé cette émission. En fait, moi, ce que j'aime bien, c'est proposer un petit temps à la fin, un peu perso. Et en fait, je pense qu'il est hyper intéressant dans ce contexte-là, parce que comment tu pourrais défendre cette œuvre si tu devais donner envie de le voir ou de le revoir aux auditeurs qui nous écoutent. Par exemple, je peux te laisser un temps où qu'est-ce qui fait que c'est pas un film de meuf, c'est ce qui veut rien dire d'ailleurs en plus.
Ouais.
C'est un peu la réputation de ce film un peu triste comme ça.
Ouais, les films de
Mais qu'est-ce qui fait qu'en fait il faut passer aussi au-delà de l'histoire d'amour, je sais pas.
Voilà, alors Titanic c'est pas un film d'auteur. C'est pas un film qui a fait un naufrage, on va dire, au box-office. Donc oui, c'est vrai qu'on peut avoir certains a priori, c'est un film qui a marché, c'est un film sentimental, c'est un film qui fait pleurer. Mais donc, moi, je conseille aussi d'aller au-dessus en fait, des a priori qu'on peut avoir et de ce qu'on a pu vous dire sur le film. Même si vous, vous rechignez un peu à le revoir. Franchement, allez-y. N'hésitez pas, c'est un très bon film. C'est pas parce qu'un film a marché que c'est un mauvais film. Star Wars a marché, c'est un très bon film. Non, il y a plein de films très bien qui ont marché, la comparaison, science-fiction. Donc non, allez le voir. Et puis après, vous pouvez sûrement ne pas accrocher, sûrement trouver que l'histoire d'amour est un petit peu risible, et c'est votre droit aussi. Mais bon, je pense que ça vaut le coup. Après, c'est vrai que c'est très personnel, alors je pourrais pas vous donner des arguments peut-être valables, parce que c'est des arguments qui me sont propres. Mais je pense que le film a le mérite d'être vu, et même toi, tu m'as dit que tu n'avais pas regretté de le revoir. Bon, t'as pas regretté parce que sinon on aurait pas pu faire d'émission.
Ouais,
mais aussi parce que t'avais peut-être un petit peu accroché.
Non, si, en vrai, ouais, c'est ça. Ça a duré 3 heures, mais j'étais bien accroché, et ouais, je pourrais rajouter vraiment que je pense qu'on peut passer au-delà d'histoire d'amour, même si elle est très très bien faite, cette histoire, et qu'elle m'a accroché tout pareil, mais. C'est pas que ça en fait ce film, je pense qu'il y a vraiment derrière, vraiment on peut observer ce bateau vivre derrière, et même il y a un grand moment à la fin où on voit plus Rose et Jack, et c'est vraiment que de la catastrophe, et comment on gère cette situation.
Ça. Comment on fait un film sur la plus grande catastrophe maritime civile de l'histoire de l'humanité.
Exactement, donc si on voit ce film comme l'amour comme un prétexte à introduire ce bateau et cette catastrophe, ça peut peut-être permettre de revoir le film différemment.
Et on va vous laisser vous faire votre avis sur est-ce que c'est un prétexte pour faire une histoire de bateau ou un prétexte pour faire une histoire d'amour.
On prendra peut-être toutes les recommandations, toutes les revendications peut-être, ou pas, je sais pas, je pense pas. En tout cas, merci Louis d'être venu parler de Titanic.
Merci Samuel de m'avoir donné la parole, et à Johanna la mettre on air, comme on dit.
Technique, ouais, trop bien.
Super, merci Johanna.
Ouais, parler de Titanic, je m'y attendais pas, et c'est ça qui est très cool finalement. Et je crois que c'est le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est très cool.
C'est très cool.
Nickel. Allez, bonne soirée sur le campus de Grenoble 90.8. Merci.